bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et je vous le rappelle, durant ces prochaines minutes, nous serons en compagnie, c'est une habitude maintenant, de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et qu'avec vous, nous présentons ces fortifications qui ont été mises en place au sortir de la guerre de 1870 perdue par la France, qui a vu donc des territoires annexés par l'Allemagne. Et pour se protéger d'une éventuelle nouvelle attaque, la France va construire des fortifications, mais va changer un petit peu de stratégie pour que ces fortifications puissent être utiles, mais aussi fonctionnelles en cas de nouvelle invasion, tout en laissant par endroits des trouées volontaires pour laisser l'adversaire venir s'y engouffrer afin de pouvoir se l'enfermer complètement tel une tenaille dans des pièges stratégiques. Mais la question, Jacques Grasser, est de savoir, est-ce que cela a fonctionné pendant cette grande guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui la Première Guerre mondiale, celle de 14-18?
En 1914, effectivement, les Allemands vont essayer de passer par là. Ça va être la bataille de Gerbeville, la bataille de Lorraine, qui est bien illustrée au-dessus de Charmes par un grand monument qui rappelle cette bataille, le monument de Lorraine, qui est au-dessus de l'autoroute de la 57, qui va sur Nancy. Quand vous allez sur Nancy, c'est sur la gauche, au-dessus des côtes de Moselle, où vous avez un grand monument qui raconte, avec un descriptif, la bataille de Lorraine, donc où les Allemands se sont trouvés coincés entre la première armée française qui était sur Épinal avec le général Dubail et la deuxième armée française qui était de Castelnau, qui était sur Nancy. Donc de Castelnau, il fait route vers le sud, Dubail vers le nord, et on coince les Allemands en tenaille entre les deux. Ça a fonctionné. Et puis pour être complet, on a un troisième rideau fortifié un peu plus au nord, à partir de Montmédy-Maubeuge, en direction de Lille, avec une trouée, là aussi, en direction au nord de Verdun, une trouée qui, là aussi, a exactement les mêmes caractéristiques. Voilà. Et d'ailleurs, qui sera de la même façon utilisée par les Allemands pour contourner le rideau fortifié des Hauts-de-Meuse entre Toul et Verdun. Donc voilà la conception générale dans l'est de la France. Alors ces trois rideaux fortifiés jusqu'à Lille ne vont pas se répéter ailleurs. C'est-à-dire que tout le travail de serrer de rivière ailleurs sur les frontières françaises va être essentiellement de construire des forts d'arrêt, mais qui ne sont pas du tout équipés en rideaux fortifiés. Ce sont des forts, soit des forts isolés, soit d'anciennes fortifications Vauban qui vont être reprises par serrer de rivière ou doublées par serrer de rivière. Je pense en particulier au fort de Joux, par exemple. On a le château de Joux, mais on a un fort de Joux, un fort serré de rivière, qui est juste à côté, au-dessus de Pontarlier. Et pareil dans les Alpes, pareil quand on va sur la côte méditerranéenne, en direction de Collioure, etc., la même chose. Et puis la même chose sur la côte atlantique et Brest et la côte de la Manche. On a des ouvrages ici qui sont généralement soit tout neuf, soit des ouvrages qui ont été repris des conceptions de Vauban. Donc voilà un peu le schéma général où évidemment les deux rideaux fortifiés de Lorraine jouent un rôle prépondérant puisque c'est là que l'on a les fortifications les plus importantes, Belfort, Épinal, les plus modernes en 1914, tout le Verdun. Et quand je dis les plus modernes, c'est effectivement là où on y reviendra en décrivant un petit peu la place d'Épinal, c'est là où on a eu les modernisations les plus fortes jusqu'en 1914, puisqu'on a travaillé là jusqu'au mois de juillet 1914. Ça ne s'est pas arrêté pratiquement du tout, il y a eu quelques pauses, mais on ne s'est pas arrêté. Et en 1914, on avait tout un programme de modernisation des fortifications serrées de rivière dans l'Est, qu'on appelle serrées de rivière, mais ça n'avait plus rien à voir avec lui, dans l'Est de la France, jusqu'en 1922. Il y avait tout un plan financé, voté à l'Assemblée nationale pour pouvoir. Alors tout ça, c'est donc en tout, à l'époque de Serré de Rivière, sa conception, c'est 196 forts, exactement, autour de la France, dont les plus nombreux sont dans l'Est. À la fin de la période, c'est 212 forts en 1914, donc on a continué largement, plus des centaines, des milliers de batteries d'artillerie.
J'allais y venir, j'allais vous dire, déjà autour d'Épinal, on trouve des forts et des batteries.
Voilà. Alors ça, on en reparlera parce que...
D'accord.
Oui, parce que ça, on en reparlera parce que c'est l'évolution.
C'est par la suite, ça a été rajouté, d'accord.
Justement par la suite, hein, à partir de 1885.
Et, mais donc avant 1885, Épinal même,
oui.
Alentour, hein, la ceinture fortifiée d'Épinal, il y a combien de forts?
Alors, en 1885, il y a une dizaine, je le mets à la louche, hein,
oui, oui.
10 ou 12 forts autour d'Épinal. Mais à l'époque, on a aussi ce qu'on appelle des redoutes, c'est des ouvrages d'infanterie, des abris troupes d'infanterie, puisqu'on a de l'infanterie dans les intervalles, et puis pour aller dans les ouvrages, mais on n'a pas encore les batteries d'artillerie modernes que l'on va avoir par la suite. Hein. Donc on va avoir, par exemple, on a le fort Duxonnier va être achevé juste à la limite de cette période-là, hein, mais on a d'autres ouvrages qui ne sont pas encore commencés, qui ne sont même pas prévus par Ciré de Rivière. On va placer d'autres ouvrages que lui n'avait pas prévus, puisque lui, il était sur des forts d'arrêt en face de voies de communication. Hein. Donc ça, on en reparlera en décrivant un peu la construction de la place.
Bien sûr.
Alors, j'ajoute à ça que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour protéger ces forts, pour peupler ces forts, il faut des hommes.
J'allais vous poser la question.
Donc, on va avoir évidemment l'arrivée de troupes de plus en plus nombreuses dans ces places fortes et de plus en plus modernes, avec évidemment de l'infanterie, bien sûr, mais aussi de l'artillerie, puisque ce sont des ouvrages d'artillerie. Donc, on a à la fois des artilleurs, on a aussi des ouvriers d'artillerie. Hein. Et puis, on va avoir de la cavalerie, parce que pour pouvoir garder le champ de bataille, etc., prévenir, et ainsi de suite, permettre les manœuvres, ben, il faut des régiments de cavalerie, hein, qui peuvent se déplacer rapidement, et puis évidemment, des unités du génie, hein, puisque c'est le génie qui construit, c'est des entreprises civiles qui construisent ces ouvrages, mais sur les ordres de capitaines ou de commandants du génie. Donc on va avoir, évidemment, la nécessité de construire des ouvrages pour abriter tous ces gens-là. Et donc, on va avoir la construction des premières casernes à Épinal à partir du moment où les premiers forts sont terminés. Donc, à partir des années 1879-80, on va commencer à construire. Il ne faut pas oublier qu'on avait déjà une caserne qui existait à Épinal, les casernes Contade. Donc, on va d'abord utiliser ces casernes-là. Et puis après, quand ça ne suffit pas, à partir du moment où on monte en puissance, ben on va commencer à construire des casernes sur le coteau de Chantraine, des casernes sur la Vierge, hein, et puis, beaucoup plus tard, à la veille de la guerre de 14, des casernes à Golbey, ce qu'on appelle les casernes Axo.
Donc, tous ces lieux pour pouvoir accueillir ces soldats nombreux.
Absolument.
Combien d'hommes?
Alors, à l'époque, on va commencer avec un régiment...
Ça va monter en puissance au fur et à mesure que les forts sont construits, on est bien d'accord.
On va commencer avec un régiment d'infanterie, c'est à peu près 1600 hommes. Et puis après, on va monter en puissance pour arriver en 1914 à peu près à 10-12 000 hommes. Mais c'est très, très compliqué à compter parce que les régiments ne sont pas équivalents. Hein, par exemple, un régiment d'infanterie normal en 1914, c'est 3 bataillons, c'est-à-dire à peu près 1600 hommes. Mais le 170e régiment d'infanterie, c'est le régiment des forts, donc il a 4 bataillons, donc il dépasse les 2000 hommes. Un régiment de cavalerie, c'est moins de 1000 hommes, parce qu'il y a des chevaux avec. Hein. Un régiment d'artillerie, c'est un régiment qui est pas... Ils ne sont pas très nombreux, parce qu'en temps de paix, il n'y a qu'à entretenir les canons et faire de l'exercice. En revanche, en temps de guerre, c'est un régiment qui va grossir. Par exemple, le 8e régiment d'artillerie à pied qui sert les forts d'Épinal... On passe d'un effectif d'environ 1500 hommes en temps de paix à 10 fois plus en temps de guerre.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas encore besoin d'amener autant d'hommes sur place. Il en faut pour alimenter les forts.
Voilà.
Mais les forts sont là pour retarder et permettre à l'armée de venir.
Donc c'est pour ça que le comptage en temps de paix à veille de la Grande Guerre, on l'a souvent exagéré. Parce que plus on en met, plus on a l'impression qu'on est vachement riche. Hein.
Et puis surtout, on impressionne l'adversaire aussi.
Mais enfin, je pense que c'est plutôt en temps normal, mais avec des fluctuations chaque année. Parce que chaque année, il y a des parties de régiments qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Hein, quand on parle d'un régiment d'artillerie de campagne, par exemple, ben, on va avoir 2 batteries Épinal, on va 3 batteries à Remiremont, on va en avoir en Birvillers, enfin bref, ou à Bruyères. Donc c'est un seul régiment, mais avec des morceaux qui sont dispersés. Hein. Donc, le prochain coup, on va construire les fortifications d'Épinal.
Les forts, et on va parler de leur conception, leur construction, leur... Je ne vais pas parler de design, mais leur forme, puisqu'elles ont toute une forme particulière.
Oui.
Et puis, petit à petit, les améliorations qui seront apportées, parce qu'il y aura plusieurs étapes dans la vie de ces forts.
Voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs leur charme, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas deux ouvrages qui se ressemblent.
Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour en parler.
Absolument.
À très bientôt.
À bientôt.
Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. N'hésitez pas à le visiter. À très bientôt sur cette même fréquence.